Je vous invite tout de suite à lire la parole de Dieu, cette parole que nous allons méditer ensemble. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean, chapitre 3. Nous lisons à partir du premier verset l'histoire de ce récit de la rencontre de Nicodème avec Jésus. Jean, chapitre 3, à partir du premier verset. Je lis dans la Bible du Semeur. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. Membre du parti des pharisiens, c'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes : Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner. Car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Mais comment un homme peut-il naître une fois vieux ? » s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se réaliser ? » Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela ? lui répondit Jésus. « Vraiment, je te l'assure. Nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas, quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. » Jusque-là, pour l'instant. Avez-vous déjà pu amener une personne à faire confiance à Christ dans votre vie et avoir cette personne transformée par l'action de Dieu? Pour ma part, j'ai connu dans mon ministère des histoires parfois étonnantes de personnes qui sont passées par des chemins bien tortueux avant qu'elles ne rencontrent le Seigneur. Chemins les plus tortueux qui soient parfois. Et le Seigneur a transformé leur vie. Je me souviens d'un couple, qui avait passé la cinquantaine déjà, et qui s'était tourné vers le Christ peu de temps avant. Tout au long de leur vie, ils étaient passés par toutes sortes de mouvements, les mouvements du Nouvel Âge, avant de commencer d'entrer dans une pratique du yoga, un yoga mystique, où ils avaient bénéficié d'une initiation mystique avec un fameux serpent qui était entré en eux. Et un jour, dans leur pratique un peu ésotérique, Ils ont rencontré une femme qui n'était absolument pas chrétienne, mais qui était presque une sorte de syncrétisme bien loin de ce que nous enseignait l'Évangile. Et cette femme leur a dit, ils devraient lire la Bible. Alors ils ont commencé à lire la Bible. Ils ont commencé à fréquenter l'église catholique de leur village. Et à côté, ils pratiquaient toujours leur yoga et leurs pratiques ésotériques. À un moment donné, ils sont devenus même des responsables reconnus dans la pratique du yoga. Ils initiaient d'autres personnes. Ils étaient capables de démonstrations de puissance. Lui me disait qu'il était capable de déplacer des camions à distance. Il voyait des choses que d'autres ne voyaient pas. Mais ils étaient en butte à toutes sortes de difficultés. Ça a contribué à ce qu'ils cherchent la vérité, à ce qu'ils cherchent Jésus. Et un jour, ils ont commencé à faire un peu confiance à Jésus. Ils ont rencontré des chrétiens qui ont pu les aider à aller plus loin. Ils sont passés par une délivrance spirituelle qui les a libérés de leurs pratiques anciennes et qui les a amenés à la liberté en Christ, à une véritable liberté. Vous savez, Dieu est un Dieu qui change les vies. Il change les vies encore aujourd'hui. Et ma prière, c'est que nous ayons tous ce privilège d'accompagner des personnes dans leur cheminement vers le Christ. Nous avons, j'imagine, tous autour de nous des personnes qui cherchent. Je vous avoue être étonné à Paris du nombre de personnes que j'ai déjà rencontrées qui cherchent. Ils ne savent pas qui est Jésus. Quand j'ai donné un évangile à mes déménageurs, je leur ai demandé s'ils connaissaient Jésus, ils m'ont dit non. Alors je leur ai donné un évangile pour qu'ils découvrent l'histoire de Jésus. Beaucoup de gens cherchent, ne connaissent pas. Avec Nicodème, nous avons un magnifique récit de quelqu'un qui cherche et qui a la chance de rencontrer quelqu'un qui va l'aider dans sa recherche. Nicodème s'intéresse à Jésus. Il n'a pas encore vraiment compris qui est Jésus. En lisant ce récit, nous sommes spectateurs de la manière dont Jésus l'accompagne dans sa découverte. On va voir comment Jésus lui montre le chemin de la vie éternelle. Ce chemin qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Et je vous propose de suivre simplement le récit que nous venons de lire ensemble. Et nous allons nous demander qui est ce Nicodème, ce qu'il veut exactement, et puis aussi comment Jésus l'introduit dans cette vie nouvelle. Alors tout d'abord, qui est Nicodème? Nous avons affaire avec cet homme, un homme d'un certain âge, qui est un homme religieux. Nicodème est juif, il appartient à un groupe que l'on connaît sous le nom de pharisiens, un groupe religieux qui aime les Écritures. Les Écritures à cette époque-là, c'était la Torah, notre Ancien Testament. Il mettait beaucoup d'accent à étudier les Écritures, à respecter la loi de Dieu, cette loi que Dieu avait donnée à Moïse. Leur fierté, c'était de pouvoir être pur, d'être sans faute devant Dieu. En même temps, ils s'attachaient à respecter la tradition que tous leurs ancêtres leur avaient transmise. Ils n'étaient pourtant pas pour autant enfermés dans le passé, ils savaient aussi s'adapter aux préoccupations des gens de leur époque, ce qui fait qu'ils étaient relativement populaires dans la population. Eh bien, quand Jésus a commencé son ministère, beaucoup de ces pharisiens étaient sceptiques. Ils étaient tellement attachés au respect de la loi, tellement convaincus que leur manière de comprendre la loi était la seule possible, la seule qui pouvait être juste, qu'ils n'ont pas compris. Quand Jésus a pris certaines libertés, par rapport à certains aspects de la loi, notamment par rapport au sabbat, Elles en ont conclu que si Jésus prenait des libertés par rapport à la loi de Dieu, eh bien c'est qu'il la violait et que son ministère du coup ne pouvait pas venir de Dieu. Alors elles se sont opposées à Jésus. Mais d'autres ont regardé Jésus. Ils l'ont vu faire des miracles. Elles ont eu du mal à croire que Jésus serait un pécheur ou que sa puissance viendrait du diable. Parce que qui d'autre que Dieu peut, par exemple, guérir un aveugle qui est né aveugle? Si Jésus a pu accomplir ce miracle, sa puissance venait certainement de Dieu. Il fallait donc prendre le temps de l'écouter, d'examiner ce qu'il disait. Bien sûr, on sait que dans l'Ancien Testament, certains faiseurs de miracles avaient une puissance qui ne venait pas toujours de Dieu. Le simple fait de faire un miracle ne dit pas que la puissance vient de Dieu. Regardez ces magiciens en Égypte qui ont été capables de transformer des bâtons en serpents. Donc le miracle n'est pas un guide infaillible qui nous mène vers Dieu. Aujourd'hui aussi, nous avons des gens qui font des miracles, des guérisseurs, des rebouteux. Et pourtant, l'origine de leur puissance n'est pas divine, ne vient pas de Dieu. Ces pharisiens qui s'intéressent à Jésus, qui se disent que si Jésus fait des miracles, il doit bien y avoir la puissance de Dieu avec lui, n'ont peut-être pas tout compris, sont peut-être en train de faire légèrement erreur sur leur manière de comprendre les Écritures, mais ils font une chose qui est juste, ils cherchent à mieux connaître Jésus. Et parfois, ceux qui cherchent Christ ne le font pas toujours de la bonne manière. Parfois, leur cheminement est hésitant, il est empreint d'erreur. Mais quand quelqu'un cherche Christ, Dieu ne se laisse pas arrêter par les tâtonnements, par les hésitations, par les erreurs que l'on peut avoir sur notre parcours. Celui qui cherche la vérité, il va trouver la vérité. Et Nicodème fait partie de ces chercheurs de la vérité. C'est quelqu'un qui a une rigueur morale tout à fait exemplaire. Ce n'est pas quelqu'un de mauvaise vie. Ce n'est pas quelqu'un qui aurait connu des problèmes importants et qui, du coup, cherche la solution un peu de manière désespérée. Non, c'est un homme bien assis, bien en place. C'est un dirigeant, quelqu'un de respecté, de respectable. Un homme attaché à la loi de Dieu qui mène une vie aussi parfaite que possible. Quelqu'un de zélé pour le Seigneur. Quelqu'un de scrupuleux qui veut bien agir pour Dieu. Il connaît les Écritures beaucoup mieux que beaucoup d'autres personnes. Et pourtant, nous découvrons quelqu'un qui ne connaît pas véritablement Jésus, le Messie, le seul capable de sauver. Malgré sa bonne vie, malgré sa position diligente, malgré sa fonction d'enseignant des Écritures, Nicodème n'est pas sauvé. Il n'a pas encore reçu la vie que Dieu donne. Il n'a pas encore été transformé par la grâce de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit apparaître à deux autres reprises dans l'évangile de Jean. À chaque fois, pour prendre la défense de Jésus. On le voit encore une troisième fois, quand Jésus est encore sur la croix, qu'il est déjà mort, il arrive avec Joseph d'Arimathée, il dépendent le corps et ils vont l'embaumer pour l'ensevelir. Entre-temps, Nicodème est devenu un véritable disciple de Jésus. Le texte nous dit que Nicodème vient rencontrer Jésus de nuit. Pourquoi? quand on a peur de se faire voir, on préfère la nuit. Nicodème est quelqu'un qui est exposé de par ses fonctions. Il n'a sans doute pas envie que tout le monde sache qu'il est un sympathisant de Jésus. Beaucoup des gens de son parti rejettent Jésus. Il aurait été mal vu que lui s'affiche comme sympathisant de ce faiseur de miracles. Par ailleurs, il est intéressant de noter que la nuit, dans l'évangile de Jean, est souvent le symbole aussi de l'obscurité spirituelle, des ténèbres spirituelles. Et Nicodème est encore dans les ténèbres quand il vient rencontrer Jésus. S'il vient rencontrer Jésus, c'est pour passer à la lumière. Nicodème prend un risque. Il veut voir Jésus, mais il mesure le risque, il vient le voir de nuit. Ça me fait penser à nos frères et sœurs d'arrière-plan musulmans qui souvent ont découvert Jésus de manière cachée parce qu'ils n'osaient pas afficher cet attrait pour la personne de Jésus. Ils ont subi peut-être des menaces, des pressions de leur famille. C'était impossible pour eux de s'approcher de Jésus sans avoir une pression qui aurait étouffé leur envie de mieux le connaître. Alors ils l'ont fait discrètement, secrètement. Et parfois, par la grâce de Dieu, bien plus tard, Dieu change les situations et permet que cette foi puisse s'exprimer plus ouvertement. J'ai connu des gens d'origine catholique qui ont dû aussi faire ce chemin secrètement, parce que leur famille rejetait leur envie de mieux connaître Christ et d'après sa parole. Il peut y avoir toutes sortes de situations qui conduisent à chercher Jésus de manière non officielle, non publique. Si vous connaissez des gens qui cherchent ainsi Jésus, ayez beaucoup d'égards pour eux. Prenez le temps de les accompagner, parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de frères et de sœurs qui sauront prendre le temps avec eux, prendre le temps de les accompagner jusqu'au jour où ils seront fermes et matures dans leur foi. Nicodème vient donc de nuit, et on se demande, mais pourquoi vient-il voir Jésus? Quand il le voit, il s'adresse à Jésus de manière très respectueuse. Il dit à Jésus « Rabbi », ce qui veut dire « maître ». Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec nous. Je le dis, Nicodème est un enseignant. Et il reconnaît que Jésus aussi est un enseignant. C'est pour ça qu'il l'appelle maître. Nicodème dit « nous ». Nous savons que c'est Dieu. Comme s'il se faisait le porte-parole d'autres pharisiens qui étaient aussi attirés par Jésus, mais qui eux n'avaient pas eu le courage d'aller rencontrer Jésus. Il était en quelque sorte leur représentant auprès de Jésus. Nicodème nous dit que les miracles de Jésus l'ont convaincu. Ils l'ont convaincu que Jésus ne pouvait pas être un enseignant tout à fait ordinaire. En fait, chaque miracle, vous savez peut-être que miracle veut dire signe aussi, c'est le même mot en grec. Chaque miracle que Jésus a fait est une sorte de signe qui signale quelque chose, une sorte de panneau indicateur. Et donc, si l'on regarde ce panneau indicateur, on peut se demander qui va poser là? Qui est à l'origine de ce miracle? Le miracle renvoie à l'auteur du miracle, renvoie à Dieu. Mais le miracle aussi dit quelque chose de celui qui le fait. le miracle de Jésus authentifie le ministère de Jésus, authentifie le fait qu'il est bien le Fils de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus guérit. Le miracle témoigne que Jésus veut sauver. Sauver pas seulement des maladies, mais sauver de la pire des maladies qui soit, sauver de l'aveuglement spirituel. Le miracle par excellence, c'est quand Jésus peut sauver quelqu'un de son aveuglement pour l'amener dans sa lumière. Quand Jésus amène quelqu'un à lui faire confiance pour qu'il obtienne le pardon de ses péchés. Nicodème voit les miracles de Jésus. Il n'a pas encore compris que Jésus est le Sauveur, le Messie, mais il comprend une chose, c'est que Jésus est soutenu par Dieu. Qu'il est l'envoyé de Dieu. Et que si Jésus est envoyé par Dieu, il faut qu'il l'écoute. Et donc il fait un premier pas. Il vient vers Jésus pour l'écouter. C'est-à-dire pour qu'un enseignant, il y ait une non-pratique de l'enseignement, qui a déjà un certain âge, vienne vers un autre enseignant en disant « J'ai besoin d'apprendre de toi », je pense personnellement que ça demande de l'humilité et que ce n'est pas courant. Nicodème accepte humblement de se laisser enseigner par Jésus. J'ai vu que certains commentateurs sont un peu déçus de dire que Nicodème ne reconnaît même pas que Jésus aurait au moins le statut de prophète. Il pourrait peut-être être le Messie. Pour ma part, je trouve assez fantastique de voir un homme qui humblement accepte de venir écouter Jésus et de découvrir mieux qui il est. Je pense qu'on trouve toujours des gens qui pensent que celui qui cherche Dieu ne s'y est pas très bien pris. Il n'avait peut-être pas les bonnes paroles, pas le bon comportement, pas les bonnes attitudes. Ils vont peut-être même reprendre la personne en lui disant « Mais tu devrais d'abord te comporter d'une autre manière. » Mais Jésus nous prend là où nous en sommes. Et il chemine avec nous à partir de cet intérêt qui est clos pour mieux le connaître. Jésus n'attend pas que Nicodème ait tout compris pour accepter de discuter avec lui. Il le prend là où il en est et il chemine avec lui. Il prend du temps, même le soir, tard. Peut-être Jésus aurait préféré faire autre chose par le soir. Voir son film préféré à la télévision. Je plaisante. Je suis pas sûr que Jésus aurait voulu passer plus de 3 heures par jour devant son écran de télévision. Il avait des choses plus importantes à faire. Et là, il prend le temps pour cette rencontre. C'est maintenant le bon moment pour Nicodème de rencontrer Jésus. Alors, il faut que Jésus ait le temps. On pense souvent que la conversion, c'est quelque chose d'instantané. On arrive à peut-être situer le moment, l'heure même à laquelle on s'est converti. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, on voit que la conversion est souvent le fruit d'un cheminement. Dieu a posé des jalons dans notre vie. Peut-être avec des personnes qui nous ont parlé de la foi en étant enfants. Peut-être avec des démarches même que nous avons faites tout jeunes, sans même nous en souvenir plus tard. Je ne vois pas, même dans le cas de la parole, de conversion instantanée qui aurait été un changement brutal d'une condition à une autre sans que cela ait été préparé d'avance. Et avec Nicodème, il en va de même. C'est un homme qui a envie de découvrir Dieu, mieux, enfin découvrir Jésus plutôt. Mais il va cheminer. Cela va prendre un peu de temps avant qu'il puisse vraiment faire confiance à Jésus. Et là, nous avons Nicodème qui est venu, qui a rencontré Jésus, qui dit qu'il veut se mettre à son écoute. Comment Jésus lui répond-il? C'est mon troisième point. Comment Jésus répond-il à Nicodème? Jésus prend trois fois la parole. Et chaque fois, il commence par dire, vraiment, je te l'assure. Vraiment. Je te l'assure. Vraiment. Ce que dit Jésus est la vérité. Il peut le dire avec assurance. Et qu'est-ce que Jésus répond à Nicodème? Il lui dit quelque chose de ce style. Je vois que, Nicodème, que tu es un homme très religieux. Tu fais partie du peuple d'Israël, tu enseignes les autres à obéir à Dieu. Écoute, Nicodème, tu connais beaucoup de choses sur Dieu. Et je vois que tu souhaites encore en savoir davantage. Mais tu sais, tant que tu n'auras pas été purifié, tant que tu n'auras pas été transformé entièrement par Dieu, tant que tu ne seras pas passé par une renaissance, tu ne vas pas être en mesure de voir et de comprendre les réalités célestes. Nicodème, tu connais les prophètes de l'Ancien Testament. Tu sais qu'ils annoncent un royaume va arriver, un royaume de justice. À la fin des temps, à la tête de ce royaume, il y aura un descendant de David, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel lui-même. C'est moi qui ai inauguré ce royaume, Nicodème. Mais ce n'est pas parce que tu es juif, que tu es intègre, que tu as un ministère d'enseignant de la parole, que tu vas pouvoir entrer dans ce royaume. Imaginez Nicodème. Ses oreilles ont dû siffler un moment. Il s'est demandé, mais que dit Jésus? Comment peut-il dire qu'un membre respecté d'Israël ne peut pas entrer dans le royaume? À cette époque, tous les Juifs pensaient qu'ils entraient automatiquement dans le royaume, c'est-à-dire dans la vie de Dieu. Alors Jésus continue et lui dit encore quelque chose comme ceci, « Nicodème, si tu veux jouir de la vie de résurrection, tu es en moi. Si tu veux goûter, pas seulement dans l'éternité, mais dès à présent, si tu veux goûter la vie éternelle, tu dois être complètement régénéré, rénové, refait. Et ça, tu ne peux pas le faire toi-même. C'est une œuvre qui vient d'en haut. C'est l'œuvre de l'Esprit. Il n'y a que l'Esprit qui puisse te laver de tes souillures. Donc si tu veux naître de nouveau, tu dois naître d'en haut, de Dieu. Il n'y a que lui qui puisse te faire devenir un enfant de Dieu. Nicodème, tu as besoin de transformation pour obtenir cette vie nouvelle. Pas seulement d'un petit rapiessage, d'un raccommodement, mais tu as besoin d'un complet changement. Est-ce que cela vous parle? Je me suis demandé comment Jésus aurait parlé au XXIe siècle. Peut-être qu'il aurait dit encore ceci, Nicodème. Ton logiciel intérieur n'est plus très performant. Il a été infecté. Il y a eu des virus, il est corrompu. Il faut tout reconfigurer, tout réinitialiser. Il faut refaire quelque chose de propre en partant depuis le début. Jésus essaie de donner des images pour se faire comprendre. ce qu'il dit à Nicodème, il le dit à nous aussi aujourd'hui. Tu ne peux pas obtenir la vie éternelle. Tu ne peux pas entrer dans la vie de Dieu si tu n'as pas été entièrement reconfiguré, si tu n'es pas passé par la naissance spirituelle, la naissance qui vient d'en haut. La naissance naturelle permet de comprendre les choses naturelles, les choses de la terre. Mais la naissance spirituelle permet de comprendre les choses de nature spirituelle. Pour entrer dans le monde de Dieu, il faut naître aux choses de Dieu. Il faut changer de nature. C'est pas juste une page à tourner. Je lisais l'autre jour dans Le Monde un article sur les Français retraités qui partent s'installer au Portugal. Là-bas, la vie est plus douce, paraît-il, beaucoup moins cher. La baguette coûte 50 centimes d'euros. Certains, ils sont partis, ils se sont achetés une belle villa, Ferrari, nouvelle femme. Ils pensent refaire leur vie, une nouvelle jeunesse. En fait, ils ne font rien d'autre que de tourner la page à ce qu'ils ont connu avant pour ouvrir un nouveau chapitre de leur vie, mais ils n'ont aucunement changé de vie. Il n'y a pas eu de transformation intérieure. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas juste changer de chapitre, nous devons être transformés par l'Esprit de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il ne suffit pas d'être né dans une famille chrétienne. Il ne suffit pas d'avoir grandi au tabernacle. Il ne suffit même pas d'avoir exercé des responsabilités dans l'Église. Il faut être passé par une nouvelle naissance. Il faut que Dieu, par son Esprit, soit venu nous laver, nous purifier de nos fautes, pour nous faire entrer dans sa vie. Nicodème entend tout cela et il se dit, mais comment cela peut-il se réaliser? Comment cela peut-il se réaliser? Et Jésus s'étonne. Il lui dit, mais toi, Nicodème, qui connais l'Ancien Testament, tu connais le message des prophètes qui ont annoncé qu'on devait changer intérieurement, qu'il ne suffisait pas partout. Il ne suffisait pas de faire partie du peuple d'Israël. Comment ne comprends-tu pas? Et Jésus bouscule son interlocuteur. Il lui dit, mais toi et vous, les pharisiens, comment ne pouvez-vous pas comprendre? Ne voyez-vous pas mon message que je porte? N'entendez-vous pas le message des prophètes qui m'ont précédé? Nous portons le message avec les prophètes qui m'ont précédé. Nous portons le message de Dieu. Comprends-tu? Comprends-tu qu'il n'y a que moi qui puisse parler des réalités d'en haut? Veux-tu me faire confiance? Tu ne comprends peut-être pas tout ce que je te dis, mais fais-moi confiance. Seule ta foi te sauvera. Si tu fais confiance à Jésus, tu pourras entrer dans la vie de Dieu. Lui seul peut te sauver. Je vais m'arrêter là dans ma prédication, parce que quelque part la Sainte Cène que nous prendrons tout à l'heure va être une forme de réponse ou de suite à ce message. Mais j'aimerais terminer en posant simplement deux questions. La première, c'est de demander à chacun ce matin: où en es-tu dans ta vie? Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu, le seul qui puisse te sauver de la vie présente et te faire entrer dans la vie éternelle? Crois-tu cela? Et si ce n'est pas encore le cas, prends le temps, comme il te donne, de rencontrer Jésus, peut-être au travers d'un frère ou d'une sœur en qui tu as confiance, et qui pourra cheminer avec toi, à tes côtés, pour te montrer le chemin qui mène à Jésus. Et si tu ne trouves personne, je prendrai volontiers le temps avec toi. Peut-être, ce matin, as-tu accepté Jésus de longue date? Ou es-tu chrétien depuis peu de temps? Aimerais-tu accompagner d'autres personnes pour leur faire découvrir Jésus? Es-tu prêt à demander au Seigneur de mettre sur ta route des personnes qui sont en recherche et que tu pourras accompagner sur ce chemin? Comme Jésus a pris le temps avec Nicodème, es-tu prêt à prendre le temps pour accompagner une autre personne qui se pose des questions, qui aimerait mieux connaître Jésus parce qu'elle a besoin de lui? Que le Seigneur nous soit en aide et qu'il nous accompagne dans notre volonté de mieux le connaître et de mieux le servir.